Alger. Alger, c'est l'endroit où je suis né, une très belle ville qu'on appelait à l'époque Alger la Blanche. Je crois avoir remarqué sur des photos récentes qu'elle est devenue un peu Alger la Bleue, parce que j'ai vu toutes les vues que j'en ai, les volets de toutes les maisons étaient peints en bleu. Enfin, je ne suis pas sûr de ce que je dis, je n'y suis pas allé. En tout cas, Alger méritait largement une belle improvisation. Dans le cadre de ce disque, ça ne pouvait pas tomber mieux. Il y a écrit sur mon petit papier « N'importe où ». Ben, je vais me dépêcher de mettre mes doigts n'importe où.
Merci et bienvenue à toutes et à tous. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Mais comme nous avons la chance ce soir d'être dans une maison à Chatou avec un monsieur qui est devant son piano, eh bien on va commencer avec vous, Martial Solal.
Je suis là, je vous écoute.
Eh ben non, c'est nous qui allons vous écouter.
Je vais répondre à vos questions peut-être.
Oui, mais on va peut-être commencer en musique.
Ah, vous voulez que je commence par de la musique?
Oui.
De quelle durée?
Ah, ce que vous voulez. Vous avez carte blanche.
Carte blanche, on y va. C'était l'introduction de morceaux qui n'existent pas.
Ah, ça ne m'étonne pas de
peut-être.
Vous, ça.
Bah oui.
Donc vous venez de l'improviser, là?
Absolument, oui.
Et comment ça vous est venu?
Demandez à mon piano, il vous dira qu'il n'a jamais entendu ça précédemment. Ça m'est venu, oh bah, c'était une longue expérience, l'improvisation, ça ne s'improvise pas en fait, ça s'apprend. Contrairement à ce qu'on prétend, l'improvisation c'est spontané, c'est le résultat de cogitation interne ou intellectuelle ou pianistique. Non, c'est un mélange d'invention instantanée. Mais évidemment, pour inventer, c'est quand on parle, quand un avocat raconte, défend son client, il a un vocabulaire. Si on n'avait pas de vocabulaire, inutile d'essayer de jouer du piano. Le vocabulaire et les doigts qui vont avec, évidemment.
Alors ça, c'est la base, mais pour pouvoir improviser et créer, il faut bien avoir des nourritures. Par exemple,
exact.
Ce morceau que vous avez créé pour l'heure bleue, vous l'avez imaginé comment? Il était à l'intérieur de vous depuis combien de temps?
Là, c'est les doigts qui ont parlé, c'est pas moi. Je suis incapable de dire ce que c'était. C'était certainement sans intérêt si on l'analyse musicalement. C'était des notes, des arpèges, un ensemble, un amalgame insolite, mais qui n'a pas d'intérêt. Mais si je veux que ça donne, que ça ait un intérêt, je me concentre et j'essaye de créer une mélodie. Par exemple, imaginons, je vais en créer une là, monsieur. Oui, c'est le début de quelque chose qui pourrait être une mélodie, une chanson. C'est très facile à faire.
Vous avez de la musique dans la tête tout le temps, Martial Solal?
Ah oui, malheureusement, même la nuit. Je viens de lire un bouquin d'un homme, monsieur Sachs, je ne sais plus son prénom.
Oliver Sachs.
Voilà, il ne parle que de gens qui lui racontent ces thèmes qu'ils ont en tête nuit et jour, et quelquefois un air vous trotte la nuit avant de vous endormir, vous espérez que le lendemain matin il ne sera plus là, et quelquefois il est encore là. Alors j'ai trouvé une bonne solution pour les amateurs qui ont des problèmes, c'est de remplacer un air qui vous trotte dans la tête par un autre. Et ça efface souvent, c'est un peu comme un ordinateur quand vous effacez un mail erroné par exemple.
Que chantait votre maman dans la maison familiale à Alger? Quel air d'opéra chantait-elle?
Justement, vous tombez bien, je les ai sortis hier. Parce que j'avais plus ou moins l'intention de m'en inspirer pour jouer un de ces morceaux, mon prochain concert, mais finalement non. La Tosca, l'Acmé, je ne sais plus, il y en a deux ou trois autres, mais c'était ma nourriture d'enfant, quoi.
Vous avez l'impression que ce bain de musique dans lequel vous avez été durant votre haute enfance a nourri votre imaginaire?
Je crois pas, non. Non, non. Non, c'était... Ça se limitait à la mélodie des opéras, c'était pas l'opéra, je n'y suis pas allé à l'opéra. Ma mère chantait les thèmes principaux sur des partitions simplifiées, et moi je simplifiais encore en essayant de l'accompagner. Je regardais la ligne mélodique et j'inventais un petit accompagnement qui correspondait.
Et votre père?
Mon père, non. Il était dans les comptabilités. Il travaillait dans une entreprise. Rien, aucun rapport. Mais quoi que la musique et les chiffres, on peut souvent estimer que ça, il y a un rapprochement à faire. Oui.
Vous diriez que vous étiez doué pour la musique quand vous étiez enfant ou que votre vie de musicien a été finalement due au hasard des rencontres?
Je ne pourrais pas dire que j'étais doué. Ce que je sais, c'est que je tapais, je pianotais sur mon piano quand j'avais 4-5 ans et qu'un jour j'ai demandé à ma mère de me prendre un professeur parce qu'il y en avait assez, de ne rien en sortir. C'est vrai que j'arrivais à reproduire les airs que j'entendais à un doigt, par exemple. J'entendais Marinella ou les succès de l'époque et je pouvais les jouer. Donc c'est être doué, c'est peut-être un peu plus que ça. Je m'en suis rendu compte que vers l'âge de 15-16 ans, oui.
Vers l'âge de 15-16 ans, vous êtes monté déjà sur une scène, en public, vous avez joué avec un orchestre.
Oui, donc j'ai dû commencer à 14, alors, pour tout dire. Oui, j'ai joué au casino musical, au Music Hall, où j'ai joué à la fin de la clarinette, c'est cet objet que vous voyez à droite.
Alors, il y a une belle clarinette,
la clarinette d'origine.
Vous savez jouer de combien d'instruments alors?
Je ne savais pas, je jouais. J'ai joué de la clarinette, du saxophone.
Comment ça, vous ne saviez pas? Vous jouiez sans savoir?
Je jouais mal, disons. Vous savez, beaucoup de gens actuellement en sont là. C'est pas... Certains, oui, je veux dire, des musiciens amateurs. Ils jouent un peu de trompette, un peu de saxophone, un peu de piano. Il y en a beaucoup de pianistes amateurs. Je suis sûr que parmi vous, il y a un pianiste, non? À vos
heures. Qui s'ignore, peut-être.
Ah, si vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez pas savoir.
À n'importe quel âge?
Bah oui, il n'y a pas d'âge. Il vaut mieux être jeune pour commencer le piano parce que les muscles, les articulations se raidissent avec le temps. J'ai beaucoup de mal à retrouver ma technique que j'avais il y a une dizaine d'années. Mais je me suis remis depuis 3 ans parce que j'avais une série de concerts honorés. Et maintenant, je crois que je suis à peu près en état de fonctionner. J'espère.
Vous vouliez faire de votre vie une séance ininterrompue de concerts publics, Martial Solal?
Pas toujours des concerts. Quand j'écris, c'est plutôt le travail.
Oui, mais là,
à la maison.
Je parlais de 14-15 ans pour commencer carrière. Oui. C'est quand même vachement jeune.
Oui, mais non, c'est bien. C'est le bel âge pour commencer. Oui, je crois que la musique, ça se commence très jeune. Être professionnel, non, c'était par la force des choses. J'étais amené à choisir ce métier très tôt. Et voilà. Et je crois que j'ai une bonne idée, parce que sans la musique, je ne voyais pas de passion suffisante ailleurs.
Et tout de suite, ça a marché?
Oui, on peut dire que ça a marché, tout étant relatif. Oui, j'étais meilleur que mes collègues qui faisaient la même chose que moi, donc c'était facile. Nous étions très peu nombreux. Être le meilleur quand on est 3, c'est plus facile que d'être meilleur quand on est 3000, évidemment. Donc mon cas, c'était d'être isolé, tout seul, donc forcément mis en valeur, poussé vers le départ pour Paris, parce que je n'habitais pas à Paris, j'habitais à Alger quand j'étais très jeune. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à me familiariser avec le jazz, notamment avec l'orchestre local. Et un beau jour, je me suis dit, je suis trop bon pour rester là, je vais tenter l'aventure à Paris. Et voilà.
Parce que Alger ne vous suffisait plus.
Il n'y a rien à faire, rien du tout à y faire, quoi.
Il y avait une ambiance musicale quand même absolument incroyable avec... Non, vous avez l'air de hocher de la tête. Vous faisiez de la musiquette pour amuser les bourgeois.
Franchement, il n'y avait pas de possibilité en tout cas d'en faire un métier. La musique existe partout, mais évidemment, mais il y a 70-80 ans, c'était en 1950, donc ce n'était pas hier. La radio, c'était un petit poste de radio qui diffusait 10 minutes de musique et pas la meilleure par jour. La nourriture musicale était très limitée. Donc, il est possibilité pour un musicien de s'exprimer et de gagner sa vie, parce que c'est un élément qui compte aussi, était nul.
Alors, quel genre de musique vous étiez contraint de jouer quand vous étiez à Alger avant de partir pour Paris?
Les pires et les meilleurs, c'est-à-dire que mon but, c'était de jouer du jazz, parce que j'étais tout de suite tombé amoureux de cette façon de s'exprimer, de sa liberté. Et puis, quand on était engagé pour jouer soi-disant du jazz, il fallait faire danser les gens aussi, donc il fallait savoir tout faire. Il y a beaucoup de concertistes classiques qui sont passés par là, et c'est une école formidable de savoir tout faire.
Justement, vous, Martial Solal, dès votre adolescence, vous avez su tout faire. Vous jouiez de plusieurs instruments, vous aviez le désir de composer, vous saviez aussi jouer du classique... Comme du contemporain, comme du jazz. Comment a commencé votre amour pour le jazz? En écoutant quelqu'un?
Oui, en écoutant quelqu'un qui prétendait jouer du jazz, qui en réalité ne faisait que paraphraser des airs existants. Mais le fait de paraphraser signifiait qu'on ajoute des notes aux mélodies qu'on connaît, et finalement ça donne pour l'auditeur une sensation de liberté incroyable. Transgresser la règle, c'est merveilleux en général.
Qui vous a introduit dans l'amour du jazz?
Eh bien, ce monsieur en question, qui avait un nom et qu'il a inventé, il s'appelait Lucky Starway, c'est très très riche comme signification. Il n'y a pas porté chance puisqu'il a sauté sur une mine au moment où le terrorisme commençait en Algérie, quoi. Enfin, le terrorisme, la guerre, on peut dire, plutôt.
Donc, vous êtes parti d'Alger avant même que ne commence ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie.
Bien avant, en 50. Donc,
en 50, mais vous êtes revenu de nombreuses fois à Alger.
Je suis passé en tournée, je suis passé plusieurs, deux fois ou trois fois. La dernière fois où je suis allé, c'était en 54, au moment où la guerre officielle commençait. Depuis, je n'y suis pas allé qu'en rêve ou en photo. Mais j'arrive à ne plus y penser.
Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas y retourner?
L'occasion ne s'est pas vraiment présentée. Et mes libertés au moment où on me le proposait ne concordaient pas. Enfin, je préférais garder un bon souvenir. Le souvenir. D'ailleurs, j'ai mon ordinateur qui de temps en temps affiche des photos sans que je les commande. Et souvent, l'immeuble où j'habitais apparaît. Alors, c'est comme si j'y étais. Avec l'imagination et les photos, la télévision, on peut beaucoup de choses. Moi, je me contente de voir, pas forcément d'être sur place, quoi.
Vous voulez dire que vous restez à Alger uniquement par votre imaginaire, mais vous n'avez aucune envie confronter à la réalité de ce qui fut votre enfance?
J'ai eu envie pendant une dizaine d'années. Tous mes rêves se situaient dans l'appartement des parents où je suis né, donc avenue de la Marne, Alger, oui. Et puis, un jour, ça a disparu. Depuis 10 ans, ça a complètement disparu. Ça voudrait dire, en somme, que je suis guéri. On peut dire, je suis guéri de cette nostalgie, je n'en ai plus besoin pour survivre.
Comment s'est passée votre arrivée à Paris? Comment avez-vous été accueilli par les musiciens? Parce que c'était une période où il y avait pas mal de caves, c'était la période bénie de Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que ce petit gamin qui arrivait et qui savait tout faire a été plutôt bien accueilli ou au contraire on redoutait tous ses talents?
Je vais vous donner une anecdote assez curieuse. Le premier endroit où j'étais engagé à jouer à Paris s'appelait L'Or Bleu. C'est amusant.
C'est pas mal.
C'était un cabaret à Pigalle où il fallait savoir tout faire, qui se terminait à 4h du matin quand le dernier client avait enfin payé sa note. Mais ça n'a duré que 8 jours, heureusement, parce que ça n'était pas l'ambition de ma vie d'accompagner les danseuses et les stripteaseuses. C'était le côté agréable. Enfin, franchement, quand on a le dos rivé au piano, on ne les voit même pas, donc aucun intérêt.
Mais c'est pas mal de jouer dans le noir pour des belles filles qui se déshabillent
oui,
pendant que les messieurs boivent du champagne.
C'est très relatif, on s'enlace très vite.
Et alors, quel genre de musique vous jouiez pour accompagner ces belles effeuilleuses?
Bien, les musiques qu'on m'imposait, on m'apportait des partitions, c'était des musiquettes faciles à déchiffrer, faciles à comprendre pour les pauvres auditeurs, clients qui payaient le champagne à prix d'or, mais il fallait bien les distraire. Bon, ça, c'était une parenthèse anecdotique. L'heure bleue, fallait le faire. Hein.
Ben, vous souvenez de ce que vous jouiez?
Aucun souvenir.
Ah, oh, dommage.
J'ai fait des efforts désespérés pour l'oublier. Ensuite, je me suis très, très rapidement infiltré, c'est le cas de le dire, dans les milieux du jazz, où j'ai été relativement bien accueilli et très rapidement. 2 ou 3 ans après, je faisais mes premiers disques. 3 ans après, en 53, j'enregistrais avec Django Reinhardt. C'était déjà une référence. Et puis, de fil en aiguille, j'ai enregistré des disques. On m'a proposé des contrats d'exclusivité chez Vogue pendant 8 ans, suivi de Pathé Marconi. Enfin, je n'ai pas arrêté d'avancer. La preuve, c'est que j'ai arrivé au sommet de ma chaise.
Au sommet de votre chaise. Vous y êtes au sommet de votre chaise. Et merci encore de nous accueillir chez vous, Martial Solal. Dans cette maison où vous êtes au piano, vous ne voulez pas nous faire une petite impro, là?
Oh, mais avec plaisir. ¶¶
Pas mal. Alors, celle-là, elle vous est venue, là, pendant que vous étiez en train de me parler.
J'ai triché un peu. J'ai une réminiscence d'un thème sur lequel je travaille en ce moment. Mais une partie du thème, le reste était, même les fausses notes, étaient...
Ah, parce qu'il y a eu des fausses notes.
C'était improvisé. Des fausses notes, en fait, on peut dire que ça n'existe pas en improvisation. Personne ne sait ce que je vais jouer, il n'y a que moi. Donc, une fausse note, ce n'est pas une fausse note. Le tout, c'est de le faire croire que ce n'est pas une fausse note. Par exemple, je vais faire ça. C'est dans mon esprit, je me trompe, je fais ça. Ah, quelle horreur, une fausse note. Mais cette note va me servir à autre chose. Et elle devient le début de quelque chose de prévisible, de prévu même. Donc il y a une part de... Ce n'est pas de la tricherie, c'est de la, des réflexes. Des réflexes, oui.
Du réflexe ou de la réflexion ?
Non, sur l'instant, c'est de réflexe pour la première seconde. Et ensuite, la deuxième seconde, ça devient de la réflexion. Oui, quand j'ai fait ça. Le réflexe, c'est de faire vite quelque chose qui va avec cette note. Et puis après, tout de suite après... Il n'y a plus qu'à jouer. C'est très simple. Il suffit de travailler quelques années, comme tout.
Vous voulez dire que n'importe qui d'entre nous pourrait faire comme vous, être comme vous ?
Moins bien, mais vous pourriez improviser. Oui, tout le monde peut improviser. Improviser, ce n'est rien. Bien improviser, c'est tout.
Eh bien, écoutez, je vous propose d'entendre la voix de Jacques Derrida, le philosophe, qui était aussi un très grand amateur de jazz. Il va évoquer sa rencontre avec Ornette Coleman et parler de l'improvisation en jazz.
L'improvisation ne se fait pas sans règles. Et donc, dans l'expérience que j'ai partagée avec lui, à sa demande, à son invitation, j'avais préparé un texte, étant entendu que lui improviserait alors que je dirais ce texte sur la scène. Ce qui s'est passé, mais nous avons d'abord répété. Répéter sans répéter. Ben, nous avons fait quelques essais où il y avait à la fois de l'improvisation et en même temps de la répétition. Et ce que j'ai essayé de dire à la fois dans le texte que j'ai lu à ce moment-là et dans l'entretien entre nous, c'est que dans l'improvisation, il y a, et surtout dans le cas du jazz, il y a des règles de la répétition et de l'événement. Et qu'il faut que l'œuvre, justement, l'œuvre improvisée, est une étrange alliance de préparation et d'exposition à ce qui vient.
L'improvisation dans votre discipline, dans une de vos disciplines, Martial Solal, qui est le jazz, est-ce que vous avez l'impression que c'est une conception, c'est une remise en cause, c'est un départ nouveau vers quelque chose qui va inventer quelque chose de nouveau? C'est comme une chaîne continue qui se réalimente elle-même.
Il faut déjà définir le mot jazz de nos jours. Ça n'a plus le même sens qu'à l'époque où j'ai commencé. Jazz, à l'époque, c'était improviser, tourner autour d'une mélodie, l'agrémenter de quelques fioritures.
Vous voulez dire une mélodie que tout le monde connaissait?
Oui, de préférence. Le
répertoire. Ce qu'on appelle le standard.
Voilà, les standards étaient connus du monde entier, de sorte que n'importe quel musicien n'importe quel pays rencontrant n'importe quel autre musicien pouvait se mettre d'accord sur, tiens, on va jouer ceci, ce thème d'un tel de Cole Porter, par exemple, ou de Gershwin, peu importe. Tout le monde connaissait les standards. Mais le jazz a nettement bougé, beaucoup, bien évolué depuis. Jouer du jazz aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à avoir envie de remuer sur son siège, comme c'était à l'époque de Sidney Bechet. On peut le faire, ça n'est pas interdit. Mais le jazz, c'est aussi ça a des avancées successives vers la musique contemporaine, la musique se nourrissant de la musique classique, des harmonies du XXe siècle, Debussy, Ravel, etc. Le jazz s'est enrichi au point qu'il est méconnaissable pour certains. Et voilà, c'est comme ça, c'est une histoire, une longue histoire, quoi. Le jazz, ce n'est pas quatre petites lettres qui ne signifient plus ce que c'est. Mais évidemment, le jazz existe toujours, le jazz traditionnel, il y a toujours le jazz de la Nouvelle-Orléans, qui est toujours le blues, tout ça, ça existe. On n'a pas effacé le passé pour faire l'ancien, pour faire du neuf, non. Le neuf s'est construit pas sur des ruines, mais sur des bases.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Martial Solal, en 2019, il y a un jazz un peu ornemental qui peut servir de sous-bassement mélodique à des chanteurs ou à des chanteuses qui profitent de la beauté de cette discipline artistique.
Oui, beaucoup, beaucoup de...
Et puis il y a le jazz de recherche et d'audace et de réinvention permanente. Il y a une lutte de classe dans le jazz.
Il y a des catégories, oui, une classe, je ne sais pas, mais beaucoup de chanteurs, par exemple, s'entourent de bons musiciens de jazz. Mais ils ne leur font pas jouer du jazz, en fait. Ils leur font jouer quelque chose jazzy, comme on dit, ou jazzifié. Mais le jazz n'est certainement pas là. On ne peut pas jouer du jazz derrière une mélodie, une chanson française qui n'est pas faite pour ça. Elle peut être très rythmée, elle peut être sous-tendue par des rythmes à la mode, mais le jazz, c'est devenu une musique beaucoup plus évoluée.
Mais est-ce qu'il y a une pureté du jazz dans la mesure où le jazz se réinvente sans cesse et qu'il a cette histoire de résistance par rapport à la musique des esclaves? Est-ce que par définition, il est hors catégorie?
Je suis incapable de répondre à cette question. Oui, il y a des résistances, bien sûr. Il y a les tenants de la tradition qui ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit, un accord dissonant, c'est l'horreur. Alors que pour nous, c'est monnaie courante, quoi. Nous recherchons la dissonance, nous recherchons l'aventure.
Quels ont été les musiciens de jazz qui vous ont le plus inspiré? Ceux que vous avez vus sur scène et que vous avez eu la chance d'entendre de vive voix, et ceux aussi que vous avez beaucoup écoutés et que vous écoutez toujours?
J'ai écouté surtout quand j'étais très jeune, pour me former, oui. J'ai écouté surtout les pianistes et les clarinettistes, par exemple Benny Goodman, qui était un pape dieu de la clarinette à l'époque. Et surtout son pianiste, qui était Teddy Wilson, qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai rencontré après à New York. Et c'est lui qui venait m'écouter après. Revanche.
Vous parliez tout à l'heure de cette époque de Saint-Germain-des-Prés, où vous avez réussi, au bout de quelques mois, à faire partie de ces clubs de jazz. Vous avez écrit deux livres qui sont autobiographiques et qui racontent votre itinéraire. Et il semblerait que dans cette période où vous avez débarqué à Paris, c'était pas si facile de se faire intégrer et qu'il fallait quand même une opiniâtreté, une croyance en soi et le désir d'aller tous les soirs pour pouvoir s'intégrer à un orchestre. Comment vous avez fait pour vous intégrer avant de devenir Martial Solal?
C'est pas fait en un jour, mais disons que le club de jazz qui fonctionnait à Paris, que tout le monde connaissait, c'était l'unique endroit où on pouvait en jouer, s'appelait le club Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît, et j'ai réussi à me laisser aller, à soudoyer gentiment le portier pour qu'il me laisse descendre ces fameuses marches pour accéder à la cave, et j'ai commencé par écouter les musiciens qui y jouaient, et je me suis aperçu qu'il y avait deux orchestres, et que le deuxième orchestre, en fait, c'était un pianiste seul qui jouait pour laisser l'autre orchestre se reposer. Alors ce pianiste seul était en réalité un très bon saxophoniste, un pianiste assez moyen, mais tout de même acceptable. Et je lui ai demandé, est-ce que je pourrais jouer un morceau à votre place? Il m'a dit non, évidemment. Puis le lendemain, j'ai recommencé. Il m'a dit peut-être. Et le troisième jour, il m'a laissé jouer. À partir de ce moment-là, c'était pas sûr que je faisais l'affaire. Et quelque temps après, on m'a engagé pour remplacer ce pauvre saxophoniste qui venait de perdre son emploi de pianiste. C'est un peu faux ce que je raconte, mais le vrai, c'est que j'ai réussi à m'infiltrer en demandant à Jean-Claude Fehrenbach, pour ne pas le citer, de jouer à sa place. Tout était fait à partir de là. À partir du moment où vous êtes accepté au Club Saint-Germain, le temple du jazz, vous êtes acceptable, vous êtes valable. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'étions pas nombreux. Je suis devenu tout de suite le seul. C'était très pratique.
Et est-ce que c'était une vie de patachon ou une vie de forçat de la musique, Martial Solal?
Patachon, non, puisque je jouais tous les soirs au même endroit. Je suis resté pratiquement 10 ans, tous les soirs, avec quelques interruptions, à jouer dans ce club, plus l'autre club qui s'est ouvert par la suite, qui s'appelait le Blue Note. Donc j'ai alterné entre le Blue Note et le Club Saint-Germain. J'étais le pilier, un des piliers. Et justement, l'avantage d'être là, ce n'était pas seulement de gagner sa vie, mais de rencontrer tous les musiciens du monde qui venaient, après leur concert à Paris, faire une jam session avec nous. Donc j'ai rencontré le Gotha du jazz. À ce moment-là, j'ai rencontré, accompagné, travaillé avec et par la suite engagé les mêmes musiciens. Enfin, c'était une époque fantastique. Mais honnêtement, je ne la souhaite à personne. C'était très dur quand même.
Vous dormiez combien de temps et quand ?
Suffisamment. Je me couchais à 2-3 heures du matin. Je me levais tard. Je n'ai pas changé d'ailleurs. C'est pour ça que je demande toujours aux personnes qui ont l'amabilité de venir m'interviewer de ne pas venir le matin. Le matin, je n'existe pas. Je commence à vivre vers 3-4 heures et je suis au top au moment du concert les soirs. C'est pratique.
Bah, vous n'avez pas changé.
Je n'ai pas changé.
Peut-être vous rajeunissez même.
Je crois, oui, ça doit être ça.
Mais hélas, le club Saint-Germain-des-Prés et le Blue Note n'existent plus. Mais il y en a d'autres.
Oui, maintenant, il y a une foule de clubs partout. Et les plus connus sont ceux de la rue du Lombard, où j'y joue encore quelquefois.
Ah, vous allez y jouer. D'ailleurs, oui. Bientôt, on va pouvoir vous entendre. Mais ça, c'est dans une salle hyper bourgeoise. C'est à la salle Gaveau. Oui, on va pouvoir vous réentendre.
Bah, depuis quelques années, je ne joue que dans les salles bourgeoises, en fait.
Pourtant, vous n'êtes pas devenu un bourgeois, j'ai l'impression, hein, Martial Solal.
C'est difficile de se changer complètement. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle bourgeois. Alors, si je n'ai pas de cravate, je ne suis pas bourgeois.
Bah non, vous n'en avez pas.
Si j'en mets une, je serai bourgeois. Enfin, c'est un peu simpliste.
Bah, vous ne voulez pas nous jouer une musique non bourgeoise ?
Non bourgeoise, oh, ouais. Ben ça, oui, bien sûr.
Je ne sais pas si ça existe, mais je pense qu'avec vous, ça existe.
Oh, tout est possible, ça. Ça, c'est pas bourgeois, c'est rien. Ça, c'est tout à fait rien. C'est du piano, des effets. Mais je peux faire quelque chose de beaucoup plus gentil. Une mélodie que j'ai inventée, que j'ai écrite il y a... Je n'ose pas le dire parce que ça ne va pas me rajeunir. Ça s'appelle « Mercredi 13 ». Ça s'appelle mercredi 13, ça aurait pu s'appeler jeudi 14, évidemment. Mais s'il se trouve que je l'ai écrite ce jour-là. Alors, ça vous inspire quoi ? C'est moi qui pose les questions maintenant.
Non, j'étais en train de penser que vous étiez un grand amoureux de Frank Sinatra. Et je me disais que chez vous, il y avait une fécondation des genres musicaux, aussi bien des grandes chansons populaires avec une connaissance très fine et sensible d'un répertoire classique. Je crois que vous pouvez jouer n'importe quel répertoire classique, hein, aussi bien Liszt, Rachmaninov, Mozart.
Les études et les travaux que j'ai fait, dire je peux jouer quelques études de Chopin, mais je peux pas jouer toutes les sonates de Beethoven. Par exemple, j'ai étudié un peu de tout, quoi.
Oui, mais n'empêche que cette espèce de connaissance dans des domaines qu'on dit opposés me permettent de penser que la musique, évidemment, est un seul langage, mais qu'à partir des différentes disciplines que vous connaissez et que vous maîtrisez parfaitement, doublées de votre pratique de plusieurs instruments, vous avez inventé votre musique.
Oui, je pense que c'est le résultat d'un million de choses. Évidemment, s'être nourri, comme on le disait tout à l'heure, de musique existante, de musique classique, c'est très important. Se nourrir tous les jours. Mais surtout, oublier de fabriquer, il faut fabriquer sa propre recette. Il ne s'agit pas de se nourrir, il faut en extraire l'essentiel ou ce qui vous paraît personnel. La difficulté dans ce métier pour exister, c'est d'être différent des autres. Surtout dans le métier du jazz, les copieurs sont légion. Pour exister, il faut être autre. Voilà. Je n'ai pas fait exprès d'être autre, en fait. Le hasard, mon manque d'intérêt pour beaucoup d'autres musiques que celles que j'adorais a fait que je me suis cantonné dans un certain style que j'ai développé, mais je ne ressemble à personne. On dit souvent de moi que quand on m'entend, on ne ressemble à personne. Ce n'est pas forcément un compliment. Hein. On peut reconnaître de très mauvais artistes aussi bien que des bons. Mais moi, on me reconnaît. Alors, on me classe dans le bon ou les mauvais, ça, c'est au choix de chacun.
Ben justement, je vous propose d'écouter une de vos musiques, Martial Solal, celle d'un extrait du film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, la fameuse séquence de New York Herald Tribune. Cette musique, est-ce qu'on peut parler de musique? Est-ce qu'on peut parler d'accompagnement d'une création? Est-ce qu'on peut parler d'une partition indépendante parce que votre musique que vous avez composée pour Godard, pour À bout de souffle, pour Gene Seberg, elle est restée de manière indélébile associée à notre mémoire avec des images. Comment se fait cette espèce d'imprégnation ou d'entrer dans l'imaginaire d'un autre?
Déjà, bon, j'ai regardé les séquences à illustrer musicalement. Évidemment, je me suis longuement penché sur le problème de Jean-Luc Godard, c'est-à-dire en l'occurrence Jean-Paul Belmondo d'une part et Jean Tiberg de l'autre, qui étaient deux personnages assez différents. Il fallait une musique contrastée, tragique pour l'un, plutôt romantique pour l'autre. Celle dont vous parlez, c'est plutôt le côté romantique, donc j'ai utilisé des instruments à cordes. C'est tout de suite plus facile que de jouer des trombones pour faire de la romance. Donc. Mais surtout, j'ai cherché très longuement le thème, très longuement. J'avais un mois pour préparer la musique, ce qui est peu relativement, mais quand on travaille jour et nuit pendant un mois, ça c'est pas mal. Alors finalement, je suis arrivé à un thème de quelques notes qui a été le thème de Jean-Paul Belmondo, qui était fait de quelques notes. Oui, c'est tout. ce thème, évidemment, revient, orchestré de mille façons. Et comme il fallait contraster, j'ai fait...
On le connaît par cœur, hein, ce que vous venez de jouer. C'est incroyable, il est resté dans notre mémoire collective.
Ça n'est pas uniquement de ma faute. Il faut dire que le film est devenu un classique. J'ai fait de musique, d'autres musiques de films, souvent au moins peut-être plus intéressantes, mais le film ayant fait un flop, personne ne se souviendra de la musique.
Oui, donc, mais enfin, le Testament d'Orphée avec Cocteau, c'était pas mal non plus.
Je suis très heureux que ce film ait fait cette durée, en tout cas, de vie. Alors donc, pour revenir au thème de Jan Tiberg sur les Champs-Élysées, au lieu de ça, j'ai fait... C'est d'ailleurs inversé, le contraire. Mais alors, ça devient, au lieu d'une tragédie, ça devient vraiment... C'est tout à fait différent. Ça part des mêmes notes, à l'envers. Enfin, le mouvement est inversé, et avec une orchestration adéquate. Donc, pour le thème tragique, il y avait des cuivres, des batteries, des tambours. Et pour ce thème-là, il y avait des cordes. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, de trouver ce thème. S'il n'y avait pas trouvé ces quatre notes, vous ne seriez peut-être pas là aujourd'hui, qui sait ?
Bah non, je pense pas, parce que vous avez quand même beaucoup travaillé pour les plus grands des cinéastes et oui. Votre carrière a continué. Et ce qui est incroyable dans votre itinéraire, Martial Solal, c'est que pour autant, même si c'était des commandes qui ont laissé des traces dans notre mémoire collective, vous avez continué votre métier de musicien. Je dis métier ou je dis vocation ? Qu'est-ce qui vous le valent le mieux ?
Tout me va. C'est un métier, c'est une vocation.
C'est devenu un métier, mais c'est resté une vocation.
Ben, ça dépend de ce qu'on appelle métier, c'est pas péjoratif, un métier. Il faut savoir, métier, ça veut dire savoir faire quelque chose. J'ai appris à savoir faire jouer du piano, j'ai appris à savoir jouer, écrire de la musique, ça s'apprend. Je suis autodidacte pour la plupart des activités. Je ne dois rien à personne, c'est très agréable.
Vous parliez tout à l'heure d'Oliver Sacks, qui était un psychiatre absolument génial, qui a soigné bon nombre de personnes dans la ville de New York où il exerçait ses talents. Et vous parliez des cas de ces personnes qui avaient dans leur tête sans arrêt de la musique. Tout le temps, tout le temps. Pour vous, la musique, elle ne s'arrête jamais, si j'ai bien compris, ni jour ni nuit. Est-ce que ce sont différents genres de musique qui vont avec la lumière du jour ou avec la noirceur de la nuit? Est-ce que c'est un bain dans lequel vous vous immergez ou c'est plutôt un accompagnement existentiel ?
Le premier responsable de ces choses lancinantes sont les titres rengaines qu'on entend dans un film, à la télévision ou par hasard. Donc les choses qui me restent en tête ne sont jamais de belles symphonies ou de grands concertos, ce sont toujours des bêtises, des petites notes. Il m'arrive quand même, pour rétablir un peu l'équilibre, de me brancher sur un bout de souffle. Alors, ça me reste.
Comme un petit doudou.
Je le déteste. Écoute, j'aime bien l'entendre jouer ou la radio ou le film, mais dans ma tête, la nuit, je m'en passerai très volontiers. Mais encore, ça, c'est l'eau du panier, parce que le pire, c'est quand j'entends Marinella, pour ne citer que c'est.
Mais c'est pas mal, hein, Marinella.
Oui, franchement, je m'en passerai. Je vous le prête à volontiers. Donc, ce sont plutôt des rengaines faites de petites notes, ou alors, ce qu'on appelle en musique de jazz, un riff. Un riff, c'est. Par exemple, une phrase rythmique courte et qui revient sans arrêt. Alors, si je me mets ça en tête, j'en ai pour 3 jours. Là. Alors, c'est affreux, j'aurais pas dû faire ça. Je regrette, n'écoutez pas.
Ça y est, dans 3 jours, vous y serez encore. Ben, je vous propose d'écouter la voix de Gilles Deleuze, qui, dans son abécédaire, parlait à R de la ritournelle.
La ritournelle, c'est un petit air. Tralala, lala, tralala. Quand est-ce que je dis tralala ? Je fais de la philosophie, hein, ça va là. Je fais de la philosophie, je me dis quand est-ce que je fais que je chantonne. Je dis je chantonne en 3 occasions. Je chantonne quand je fais le tour de mon territoire et que j'essuie mes meubles. Il y a un fond radio. Bon. C'est-à-dire quand je suis chez moi. Je chantonne quand je ne suis pas chez moi et que j'essaie de regagner le chez moi, quand la nuit tombe, l'heure de l'angoisse. Je cherche mon chemin et je me donne du courage en chantant tralala. Je vais vers mon chez-moi. Et puis, Je chantonne lorsque je dis adieu, je pars, et dans mon cœur j'emporterai. C'est aussi, tout ça, c'est la chanson populaire. Adieu, je pars, et dans mon cœur j'emporterai. Alors, lorsque je sors de chez moi pour aller ailleurs, mais pour aller où? En d'autres termes, la ritournelle, pour moi, est absolument liée au problème de territoire et de sortie ou d'entrée dans le territoire, c'est-à-dire au problème de déterritorialisation.
Est-ce que vous pensez que ce terme de ritournelle est important en musique, Martial Solal ?
Moi, j'ai composé deux morceaux au Danemark il y a quelques années qui s'appelaient Ritournelle numéro 1, Ritournelle numéro 2. Ritournelle, oui, c'est important, c'est quelque chose qui revient, qu'on peut mémoriser, mais ça ne doit pas être l'essentiel de la musique. Évidemment, c'est à proscrire. À mon sens, les choses répétitives cessent d'être intéressantes au bout d'un moment. Donc, ça crée une ambiance, une espèce de transe pour certains. Mais moi, j'estime que la musique, ça doit dépasser les ritournelles, évidemment. Mais elles existent, elles font partie, c'est partie d'un tout, la ritournelle, la chanson, tout ça, ça se mélange, et tout dépend de la synthèse qu'on en fait.
Mais moi, j'aimerais bien savoir quelle relation vous entretenez avec votre piano.
Ah, très amical, je l'aime beaucoup. Il ne me le rend pas, il me fait souffrir, mais je lui pardonne.
Et vous lui parlez ?
Oh oui, je le caresse de temps en temps. Pour faire la poussière.
Vous continuez à composer, Martial Solal ?
Ben, je viens de composer devant vous tout à l'heure.
Oui, mais ça veut dire que tous les jours, vous créez 40 pièces de musique.
Non, j'ai arrêté d'écrire, si vous voulez, il y a quelques années. Le dernier concerto que j'ai écrit, c'est un concerto pour saxophone qui n'est pas encore créé, qui sera créé justement l'été prochain à Giverny, en principe. Voilà, c'est ma dernière mésaventure avec le papier. Enfin, le papier, c'est maintenant l'ordinateur.
Oui, mais ce n'est pas une décision que vous pouvez prendre, parce que si tout d'un coup, quelque chose d'autre se trame à l'intérieur de votre tête...
Oui, mais dans ma tête commence à être fatiguée, saturée. J'ai l'impression d'avoir tout dit en matière de musique. Je peux inventer de la musique, oui. L'écrire, c'est un travail différent. Je suis beaucoup moins à l'aise pour écrire, parce qu'écrire, ça prend du temps. Le temps d'écrire. J'ai joué ça, ça me plaît. Je voudrais l'écrire, mais le temps de sortir... l'ordinateur imprimé de ça, j'en aurais oublié la moitié, il n'y aura plus la spontanéité. La spontanéité, c'est capital.
En fait, mais, c'est la transcription qui vous pèse.
Actuellement, oui. Écrire un concerto, ça prend 6 mois. Alors, là, j'en ai tellement envie d'écrire pendant 6 mois une pièce, quoi. Puis j'en ai écrit suffisamment qu'il reste dans des tiroirs. Je me dis que ce n'est peut-être pas la peine d'insister. Par contre, je profite de l'occasion pour dire que le 23 janvier, à l'occasion du concert à Gavot, sortira en même temps ce qu'on appelle des morceaux choisis, 65 de mes compositions qui viennent d'être éditées, qui seront publiées ce jour-là. Donc, il y a de quoi meubler les envies de solalisme éventuel, quoi. Donc, vous vouliez que je vous joue quelque chose ? Ah ben. Quelque chose que j'ai joué pour la première fois en Allemagne il n'y a pas très longtemps, c'était une improvisation sur Frère Jacques. Frère Jacques, tout le monde connaît. Alors je l'ai évidemment maltraité le mieux possible. C'est nouveau, évidemment.
C'est dingue, hein.
Mais je peux jouer pendant 3 jours comme ça, ça ne sera jamais la même chose, forcément. Mais c'est un petit thème, c'est très inspirant, parce que c'est facile. C'est facile pour un improvisateur de varier. C'est plus pareil, évidemment.
En fait, vous jouez dans les deux sens du terme.
Je peux jouer aussi. Ça, c'est un amusement pour moi, évidemment.
Vous avez des petits-enfants ?
J'ai 2 petites filles et 2 arrière-petits-enfants, dont l'un a 1 mois à peine. C'est tout neuf.
Bah alors, le petit d'un mois, c'est peut-être un peu trop tôt, mais les autres, quelle chance ils ont !
Ils ne savent pas encore. Ma petite fille commence à pianoter quand elle vient, oui, oui.
Moi, je crois que vous n'allez pas arrêter, Marcel Solal.
Écoutez, ça fait 10 ans qu'on me dit « tu joueras jusqu'au bout, je le sais ». Moi, j'ai dit « non, j'arrête ».
Ben, vous savez pas où est le bout ?
Mais j'ai été malade pendant un moment, j'ai arrêté pendant 1 an, complètement.
Et alors, vous étiez malheureux de devoir arrêter ?
Non, j'étais soulagé. Je dis, enfin, plus de gamme, plus de responsabilité, plus à paraître, plus à... c'est lourd quand même par moment, même si le monde du jazz est étriqué, on ne touche pas le grand public, mais pour les gens qui vous aiment, vous avez une responsabilité. Il fallait que je joue bien. Pendant 1 an, j'étais tranquille. Et puis, quelqu'un a eu la bonne idée de me remettre le pied à l'étrier. Alors bon, c'est reparti, quoi. Et là, peut-être que je vais m'arrêter après Gabo. Mais j'ai déjà quand même des prévisions pour l'année prochaine.
Ah.
Mais je voudrais bien pouvoir arrêter. Mais en fait, à condition que quelqu'un travaille le piano à ma place, quoi. Parce que j'ai pas envie de perdre mes doigts. Parce que les doigts, c'est capital pour faire ce que je viens de faire. Il faut quand même que les doigts ne soient pas ramollis. Il faut pas mettre les doigts à côté. Et si vous les mettez à côté, il faut se dépêcher. C'est pas très
bon. Vous les regardez pas, vos doigts. Qu'est-ce qui joue en vous quand vous jouez ?
On peut jouer les yeux fermés, évidemment, si vous voulez que je joue les yeux. À la radio, c'est
facile. Ça se voit pas à la radio, mais je peux certifier que vous avez les yeux fermés.
C'est beau.
Ouais, c'est, franchement, c'est beau.
C'est 50 ans, 60 ans, 70 ans de travail, quoi. Marqué, je faisais ça déjà avant, mais moins bien. Non, je crois que je suis en progrès.
Voilà, c'est le tout début de votre carrière, en fait, Marcel Solal.
Pardon ?
C'est le tout début de votre carrière, en fait.
J'aimerais bien être au tout début de ma carrière et savoir ce que je sais faire aujourd'hui. Oui, ça serait un avantage formidable.
Eh bien, nous, on a le temps de vous écouter. Et comme c'est la fin de l'émission, on aimerait bien vous quitter en musique. Vous allez nous inventer encore quelque chose ?
Tout ce que vous voudrez. Vous avez un thème de prédilection que je pourrais illustrer ?
On est à une période de l'année où la nuit, hélas, tombe très vite. Donc, l'heure bleue, il faut l'attendre avec le printemps. Moi, quand je vous écoute, Marcel Solal, j'ai toujours l'impression que j'écoute une tonalité de lumière aussi. Vos compositions musicales, pour moi, évoquent des lumières particulières. Alors, est-ce que vous pouvez nous jouer votre heure bleue ? Ce que ça évoque pour vous ?
Ça sera un peu sombre. L'heure bleue, c'est quand même la tombée de la nuit, non ? Oui.
Et ça peut être aussi le lever du jour.
Ah, oui.
C'est un moment très indistinct.
Alors, on va vous choisir après. Moi, je vais faire ce que je peux en pensant à une heure bleue.
Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci infiniment, Marcel Solal.
Merci à vous.
Et à très vite.
J'espère.
Musique hypnotique, elle était trop chaude. Princesse mexicaine au sourire de Mona Lisa. Je te respire et tu m'inspires. sous les étoiles chez la Sam. Jolie sorcière, tu nous tirais les cartes. Le fou, la lune et l'amoureux. Le destin était si audacieux. Sous les étoiles, amour et hal. La luce de tes cuerpos était si belle. La luz de tu corazón aussi. Je n'ai pas voulu te voir mourir sous les étoiles, amour et âme. Une nuit d'hiver par la fenêtre ouverte. S'envole un souffle au-dessus de la ville blanche et mystique. Sous les étoiles de la Seine. Chante avec le roi Cohen sous les étoiles, amour et hal. Et tu chantes avec le roi Cohen sous les étoiles, amour et hal.
C'était Arthur H. sous les étoiles à Montréal. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que le concert de Martial Solal, ça sera à Paris, à la salle Gaveau, le 23 janvier à 20h. Merci à Nasser Moussaoui qui était à la technique ce soir, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert qui m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Lilian Allôme qui l'a réalisé. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous, comme chaque vendredi soir, avec Didier Varro pour ça et pour notre foule sentimentale.